cheval calage.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Cavale Calade, en direct sur Radio Calade 100.9 FM. Bonjour Mathieu.
Et bonjour Elodie.
Alors, aujourd'hui nous allons parler d'océan, ça va être le thème de notre émission. Et avec notre invité,
ouais.
Notre invité Marie-Laure Boulot.
Qui doit être avec nous, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marie-Laure. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un vrai plaisir.
C'est un plaisir partagé. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, on l'a dit, c'est l'océan. On va parler un petit peu d'eau. L'océan. Alors nous ici, dans le Beaujolais, on n'a pas l'océan.
On est un petit peu loin.
On a la Saône.
Ouais.
On a la Saône. La Saône, c'est une rivière. Hein, on se met d'accord, ça n'est pas un fleuve, la Saône est une rivière qui fait 482 km. Pourquoi c'est une rivière et pas un fleuve ?
Parce qu'elle se jette dans un fleuve.
Exact.
Ouais, c'est CE1, CE2.
Mais il faut le dire, parce que pas mal de gens considèrent encore la Saône comme un fleuve.
Ah,
non,
ouais.
C'est une rivière. C'est un affluent qui se jette dans le Rhône, tu l'as dit. Et le Rhône, par contre, c'est un fleuve qui se jette dans la mer.
Mm.
Voilà. Le Rhône, c'est 812 kilomètres, hein, quand même. Hein. Donc, notre Saône à nous, est-ce que tu sais où est-ce qu'elle prend sa source ?
Alors là, par contre, ça, les cours de géo, non.
Dans les Vosges.
Dans les Vosges.
D'accord. Elle commence dans les Vosges, à Viauménil.
Ok.
Alors, je vais présenter quand même Marie-Laure un petit peu, te présenter brièvement, puisque tu vas être avec nous pendant toute l'émission, Marie-Laure. Donc, tu n'hésites pas à réagir, tu me contredis s'il le faut, tu rajoutes des informations, tu t'exprimes, tu es notre invitée. Marie-Laure, alors j'ai un petit peu enquêté sur toi. Voilà les informations que j'ai. Tu me dis. Marie-Laure, tu es conférencière. Tu es anciennement présidente de la FDSE Rhône-Alpes, Femmes, Débat et Société.
C'est ça.
Tu es aussi gérante d'une société qui s'appelle Un Océan d'Avance, que tu as créée en 1994.
Exactement, oui, tout à fait.
Tu organises à Lyon le Symphosium depuis 2007.
Alors, j'ai organisé donc plusieurs événements, toujours autour de la thématique de l'environnement.
Oui.
D'abord, en termes de mobilité, écomobilité, donc ça s'appelait le village de l'écomobilité.
La fête des transports à Lyon, c'est toi.
C'est ça, place Bellecourt.
Oui.
Donc l'idée, en fait, on était assez pionniers. C'est un mouvement qui a été lancé par Gérard Felzer à Paris,
oui.
Et qui m'avait demandé donc de développer l'activité et les programmes et la programmation événementielle à Lyon. Et l'idée, c'était à l'époque donc de démontrer que l'on pouvait se transporter de manière différente, ou en tout cas, utiser bien évidemment la question du vélo,
oui.
Mais également d'autres transports alternatifs,
mm-hmm.
Et puis réfléchir sur la question de l'énergie, puisque se transporter, ça veut aussi dire l'énergie. Donc on avait beaucoup d'exposants, que ce soit la Voie Navigable de France, ou le Citral, ou les industriels des transports routiers présents, et qui valorisaient en fait leur démarche de recherche,
oui.
Pour effectivement des énergies plus propres, qui effectivement concernent la question de l'environnement et aussi de la pollution, puisque c'est quand même très important, l'air que nous respirons, c'est quelque chose de primordial.
Tout à fait.
Donc cet événement, voilà, était organisé pour le grand public, mais en même temps avait un côté, business, enfin compagnie. Et puis aussi, on incluait beaucoup de jeunes étudiants qui avaient leurs propres projets, vous savez, dans le cadre de leurs études ou pas.
Mm-hmm.
Et puis des beaucoup plus jeunes en primaire, qui venaient découvrir, essayer tout ce qui était trottinette à l'époque, etc. Je dis à l'époque puisque nous avons arrêté cet événement il y a quelques années. En parallèle, j'avais décidé donc avec mes collaborateurs de créer un symposium sur la chimie verte.
Exactement. Donc, demain, vers une chimie choisie, c'était toi.
C'est ça. Et l'idée, en fait, c'était d'une part de faire savoir et puis d'encourager donc tous les chercheurs dans le domaine de d'une chimie plus propre, parce qu'évidemment, on a besoin de la chimie, mais on n'a pas besoin d'être empoisonné en même temps. Donc, voilà, de valoriser toutes les initiatives et la recherche. Et on avait trouvé comme créneau d'inviter les prix Nobel de chimie à Lyon. Parce que on s'était dit que pour encourager les jeunes qui se détournaient un peu des carrières scientifiques, à l'instar de ce qui se passe dans le sport, vous savez, quand on a un grand champion français dans n'importe quelle discipline, vous avez un engouement des jeunes ensuite pour cette discipline, parce que ça devient un peu leur idole et leur héros. Et on s'était dit, par rapport au prix Nobel, ça pourrait être la même chose, parce qu'en fait, ces prix Nobel, bon, ils restent tout à fait inconnus du grand public, on ne sait pas ce qu'ils ont découvert ou qu'est-ce que leur science va apporter, quel va avoir l'impact de leur projet. Ils sont reçus dans les ministères ou à la présidence de la République, mais enfin, après, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, on s'était dit, si on les invite à Lyon, dans le cadre d'un grand symposium, donc non seulement avec des chercheurs, mais toute une partie donc ouverte aux jeunes lyonnais, donc des différents collèges et lycées. Et c'était tout un programme sur l'année pour qu'ils travaillent un peu sur cette question de chimie verte, qu'ils soient curieux, qu'ils soient exposés aux nouvelles idées. Et en même temps, donc un grand symposium où ils se retrouvent dans un grand amphithéâtre à poser des questions en direct au prix Nobel. Et notre animatrice favorite était Sabine Quindou, qui faisait très bien donc le lien et entre ces grands chercheurs et ces jeunes. Et c'est vrai qu'on a remarqué au cours donc des années, puisque c'était documenté avec des statistiques par le rectorat, par les différentes institutions scolaires et universitaires, que les jeunes qui avaient participé au programme étaient plus enclins ensuite à embrasser des études dans le domaine de la science. Donc c'est quelque chose qui nous a vraiment intéressés. Et c'est un peu notre credo, en fait, de travailler sur ces nouvelles technologies ou sur ces nouvelles idées ou sur ces nouveaux projets dans le cadre de la question environnementale, parce qu'on aspire à être connecté avec la nature et avec les ressources dont on dispose, mais en même temps d'y inclure tous les jeunes pour qu'ils puissent réfléchir, s'intéresser, être curieux et puis apporter leur contribution et, s'ils le souhaitent par la suite, travailler dans ces domaines-là.
C'est très intéressant, puisque je trouve que c'est vraiment pertinent, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de former une jeunesse à un monde qui n'est pas celui que nous connaissons, nous, en fait. Donc, il faut leur apprendre à être curieux, il faut leur apprendre à s'adapter et à être innovant.
Voilà, exactement. Et c'est ce que nous faisons donc, dans le domaine aussi... tourner donc vers la mer avec Océan Attitude.
Oui. Alors, tu es aussi, il me semble, dis-moi si je me trompe, directrice du département d'un programme qui s'appelle Enrichment à l'Université Coast.
Alors voilà, c'est ce que j'ai fait pendant jusqu'à il y a 2 ans.
D'accord.
C'est une université qui se trouve au bord de la mer Rouge, tout à fait pionnière en matière donc de développement scientifique et technologique, qui se trouve en Arabie Saoudite. Donc, je suis partie là-bas en 2009. Alors, ça a été un grand saut quantique, si on peut appeler ça comme ça. J'ai été tout à fait intriguée par ce grand projet du précédent roi, qui souhaitait préparer l'après-pétrole. Donc, ça, c'était en 2009. Et ça m'a vraiment, vraiment intriguée. Et je me suis dit que je pouvais donc apporter ma vision en termes donc justement d'éducation par rapport aux jeunes et d'éducation par rapport à l'environnement en particulier, mais pas que, aussi par rapport aux nouvelles technologies et par rapport à l'art et à la culture.
Tout à voilà. fait. J'ai noté que tu avais encouragé la mise en œuvre de programmes innovants pour les étudiants, donc vraiment très pluridisciplinaires. On touche à plein de matières, la santé, l'énergie, la nutrition, la biodiversité, la mer Rouge, la connectivité réseau, la transformation digitale. Tu as été aussi jury pour la sélection des projets scientifiques. Donc vraiment, vraiment une femme engagée et passionnante. Donc... Merci. Mais tu l'aimes, Marie-Laure. Alors Marie-Laure, parle-nous un petit peu de Océan Attitude. D'où te vient déjà cette passion pour l'océan, tout premier déjà?
Alors, moi, j'ai fait de la voile quand j'étais jeune, au Glénan. Donc, j'ai découvert la voile comme cela. Mes parents étaient aussi adeptes de la navigation. Et puis, il se trouve que, donc, pour Océan d'avance, mes associés faisaient tous de la voile. Bon, donc, c'était un petit peu le hasard, mais finalement, non, c'était pas le hasard. Et quand on fait de la voile, forcément, notre terrain de jeu, c'est l'océan. Et on souhaite que cet océan soit le plus pur possible. C'est vrai que quand on parle de notre planète verte, c'est plutôt une planète bleue, comme vous le savez, puisque l'océan et les océans constituent la plupart donc, de notre planète. Nous-mêmes, en tant qu'humains, on est vraiment constitué d'eau. Donc, quelque part, c'était une évidence, en fait, pour moi, de m'intéresser à la question de l'eau et à la question des océans, en dehors du fait que c'est un plaisir immense quand on marche au bord de la mer, sur les plages ou quand on est sur l'eau, d'être véritablement en harmonie avec notre environnement, avec les éléments qui nous entourent. Et ça m'a toujours intrigué. Je crois que dans ma famille, on a eu des grands voyageurs. J'ai un grand-père qui s'occupait d'hydrographie à Monaco. Dans ma famille, donc des savants aussi, comme Gay Lussac, qui travaillait sur la chimie, mais pas que, sur le magnétisme, sur ça a été un des premiers à faire une ascension en ballon, à l'époque, donc en 1880 et quelques.
Donc la fibre aventurière est en toi.
Voilà, c'est ce que je pense, oui.
Océan Attitude, qu'est-ce que c'est?
Oui. Alors, nous avons décidé donc de créer ce site communautaire, ce qu'on appelle donc communautaire, pour véritablement favoriser l'expression en fait des gens, donc du grand public, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des professionnels engagés, des marins évidemment.
Oui.
Pour qu'ils nous expriment en fait au travers donc de ce site, qu'est-ce que pour eux c'est l'océan Attitude, c'est-à-dire en fait comment ils conçoivent de préserver, de protéger, de travailler avec l'océan, et puis tout simplement de passer de bonnes vacances aussi au bord de la mer. Donc nous avons recueilli des témoignages, comme je le disais, ça peut être aussi bien des prix Nobel ou des scientifiques qui sont engagés dans leur quotidien dans cette protection de l'océan, des marins, et puis aussi donc tout à chacun qui peut s'exprimer, parce que on pense que quand il y a un sujet aussi important que celui-ci, il faut évidemment partager la connaissance.
Oui.
Ça c'est primordial, donc les gens puissent avoir accès à de l'information, et puis d'autre part puissent questionner aussi, parce que forcément quand on s'informe, on a aussi plein de questions, et puis après agir. Parce que pour certaines personnes, c'est important que dans leur quotidien ou en tout cas dans leur perspective de vie, ils souhaitent s'engager ou agir, que ce soit pour lutter contre la pollution plastique et moins consommer de plastique, ou faire des ramassages de plastique sur les plages,
oui,
ou s'engager pour la préservation des coraux, ou tout simplement aussi pour la vie animale, et aussi pour valoriser en fait cette richesse incroyable que représentent nos océans et les mers.
Bien sûr. Je vais te demander, quelle action avez-vous menez-vous, et souhaitez-vous mener à l'avenir?
Alors, une des actions, nous avons décidé donc d'acheter un voilier, qui est un Figaro, qui s'appelle un Figaro 3, donc du groupe Beneteau, et qui participe à des courses, à un circuit de courses. Donc ce sont des courses qui sont réservées à des gens qui s'engagent, enfin qui sont des amateurs éclairés ou professionnels.
Bien sûr.
Et avec ce voilier qui s'appelle Océan Attitude également, cela nous permet aussi d'encourager les industriels et les compagnies et les entreprises à être plus vertueuses et à rechercher donc et à travailler dans le cadre de l'innovation,
oui,
pour apporter des solutions concrètes, pragmatiques. Par exemple, en 2020, donc le bateau a été skippé par un jeune de Lorient qui s'appelle Adrien Hardy, très engagé dans l'environnement, parce que nous avons pour souci que les skippers qui naviguent sur ce bateau soient engagés dans des actions concrètes pour l'environnement, dans leur quotidien, ou en tout cas dans leur vision de la course, par exemple. Oui. Et avec Adrien Hardy, nous avons approché une société française qui fabrique des voiles, qui s'appelle All Purpose. Et pour la première fois, donc un bateau en course a navigué avec une grande voile qui contenait 35% de lin fabriqué en France. Ah. Et maintenant, toutes les grandes courses, par exemple, vous avez entendu parler du Vendée Globe Challenge, cette grande toute course autour du monde en solitaire. La prochaine aura lieu en 2024. Tous les participants, tous les concurrents ont pour obligation, c'est dans les règles de course, d'avoir au moins une voile en matériaux biosourcés, donc en lin ou autre chose. Considère que on a été leader dans ce domaine-là et c'est vraiment ça a apporté ses fruits et ça a un grand impact. Un deuxième exemple, nous ne mettons pas de ce qu'on appelle d'anti-fouling sur la coque du bateau. Ce sont des produits chimiques, bon, c'est validé au niveau européen, et ça a été avec des restrictions certaines, et tant mieux. Mais nous avons souhaité, depuis le début donc de l'achat de ce bateau, ne pas mettre d'anti-fouling, parce que cela déverse des produits chimiques dans les océans. Et nous mettons à la place alors un film plastique, donc c'est du plastique, mais qui dure 5 ans, qui protège donc la coque, et qui permet donc que le bateau soit une coque assez claire, de manière à pouvoir être performant en matière de vitesse. Mais nous ne mettons pas de produits chimiques. Et nous encourageons donc les autres skippers à faire de même, ou en tout cas, et aux autres compagnies et sociétés, à travailler pour trouver des systèmes et des produits innovants qui permettent de protéger nos océans, parce que c'est tout à fait possible. Et Adrien Hardy donc, a démontré avec sa voile en lin et sans anti-fouling qu'il pouvait également avoir des performances sportives, puisqu'il avait fini quatrième de la course, deuxième d'une des étapes. Donc voilà, on a réussi avec brio à démontrer qu'on pouvait se passer de ces produits que je considère à l'heure actuelle impensable. C'était peut-être possible quelque temps en arrière, mais puisque nous avons des solutions et puisque maintenant il y a vraiment urgence à agir, oui. À un moment donné, il faut être très clairvoyant et puis prendre les décisions qui s'imposent.
Bravo, c'est magnifique, pionnier, que lancer des initiatives et puis après qu'elles soient appliquées par d'autres, formidable. Marie-Laure, on va se faire une petite pause musicale. Je crois que tu as choisi une musique qui est vraiment dans notre thème. C'est
Le Grand Bleu. Je pensais qu'en fin de journée, et puis dans la thématique que tu as choisie, l'océan, ça me paraissait pertinent.
Alors allons-y. Nous voilà de retour dans l'émission Cavalcalade sur Radio Calade 100.9 avec notre invitée Marie-Laure Boulot. Marie-Laure, tu es toujours là ?
Et oui, je suis toujours là, bien sûr.
Alors, donc nous parlions de Océan Attitude, cette communauté que tu as créée, que tu as fondée. J'emploie le mot communauté, blog.
Exactement, site communautaire.
Site communautaire. Donc, tu nous as parlé des projets que vous avez menés. Est-ce que vous avez ensemble des projets que vous allez mener à l'avenir ? Quels sont vos projets à l'avenir, vos objectifs ?
Voilà, alors, le bateau va être engagé donc, dans la solitaire du Figaro, qui va partir le 27 août de Caen jusqu'au 13 septembre. Et cette année, il est skippé par un jeune néo-zélandais qui s'appelle Ben Besley, et donc qui arrive tout droit d'Auckland et qui a décidé donc de faire de la voile en France avec des marins, en concurrence avec des marins français, et qui est également très engagé dans les questions environnementales. Comme vous le savez, en Nouvelle-Zélande, ils sont soucieux de la protection donc de leur environnement, et ça va nous apporter aussi un peu des idées, parce que je pense qu'il faut s'éclairer sur ce qui se passe en France, certes, mais aussi sur ce qui se passe dans le monde entier, puisque c'est une problématique globale, et nous sommes tous connectés les uns aux autres.
5 océans, alors, donc effectivement, de par le monde, il est bon d'aller voir ce qui se passe ailleurs et comment est-ce qu'on appréhende des problématiques à venir, comment est-ce qu'on trouve des solutions, c'est important.
Exactement. Donc, nous allons déjà suivre ce jeune, parce que comme je vous l'avais dit, donc notre fil conducteur, c'est l'environnement, mais c'est également donc donner leur chance aux jeunes. Donc, nous sommes attachés à ce que tous les skippers, par exemple, je pense à la famille, au jeune Morvan. Oui. C'est une famille connue dans le domaine de la voile. Et Gaston et Paul, donc, on naviguait sur le bateau. On les a aidés avec cela. Et c'est pour ça aussi que Ben Besley, donc, a été, lorsqu'il nous a approchés, nous avons été très, très enthousiastes de le soutenir également.
Quand tu dis des jeunes, Marie-Laure, la tranche d'âge, à partir de quel âge est-ce qu'on peut se lancer dans l'aventure ?
Eh bien, pour Ben, il a 22 ans.
22
ans. Et Paul Morvan, donc l'année dernière, lorsqu'il a couru la Dream Cup, avait 18 ans.
Magnifique. Voilà. Comment est-ce que des jeunes qui nous écoutent, qui rêvent en fait de s'engager avec toi sur ce bateau, avec vous, comment est-ce qu'on vous contacte ? Comment est-ce qu'on prend contact avec vous ? Comment on vous approche ? Comment ça se passe, Marie-Laure ?
Voilà, donc maintenant, tout est un peu digital. Donc, nous avons un site internet, donc ce site communautaire qui s'appelle Océan Attitude. On a un email qui est contact@océanattitude.com. Et nous avons aussi les réseaux sociaux et notamment Facebook. Donc, il est très facile de nous laisser un message sur Facebook et nous répondons très rapidement. Mm-hmm. Pour, d'une part, nous faire savoir si effectivement il y a un intérêt par rapport à ce que nous faisons, et puis nous sommes à l'écoute aussi à tout projet qui pourrait être présenté, parce que nous sommes un peu facilitateurs nous avons un grand réseau national et international, et nous pouvons donc faciliter les mises en contact ou apporter des solutions, mettre en contact avec des scientifiques, avec des éducateurs, avec des skippers ou des marins. Nous pouvons aussi, s'ils le souhaitent, organiser des liaisons en direct avec le jeune Ben Besley ou d'autres. Donc voilà, nous sommes vraiment à l'écoute de ce qui peut nous être proposé, être intéressant. Et puis, évidemment, on essaie de faire partager notre passion et notre moto.
Oui, je comprends. Bah, écoute, c'est vraiment magnifique. Je vais poursuivre avec deux, trois petites informations qui font un petit peu écho avec ce que tu disais là. Le GDR, le groupement de recherche qui travaille avec le CNRS, le GDR, Océan et Mer, Omer. Il est né en 2021, il est mis en place, il est né en 2021 et pardon, durera jusqu'en 2030. C'est sur les sciences océaniques. L'objectif, c'est de faire émerger des recherches co-construites avec des collectifs de scientifiques, ça doit te parler Marie-Laure, des scientifiques d'horizons disciplinaires variés, 5 missions. Donc, quand je parlais d'horizons disciplinaires variés, c'est les mathématiques, la biologie, la physique, le numérique. Donc, on est vraiment dans le thème. Les missions animées, organisées des réunions scientifiques, coordonner des activités de recherche et des propositions, un rôle de veille scientifique aussi pour le CNRS, pour les travaux du CNRS sur le suivi de l'évolution, les nouveaux défis scientifiques, les enjeux de société aussi, c'est important. Une mission de formation pour les enseignants, les magistrats, les préfets. Et ça, c'est assez incroyable, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec les problématiques et les nouveaux enjeux écologiques, il faut que le monde juridique soit aussi formé, en fait. Donc c'est important, c'est vraiment nouveau et c'est une très belle vision. La mission, enfin la dernière mission, c'est de valoriser et diffuser les travaux scientifiques. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est important. Voilà. Tu connaissais peut-être Marie-Laure ?
Non, je ne connaissais pas ce programme sur 5 ans et c'est vraiment très, très intéressant et je serais très intéressée évidemment à être en relation avec eux ou en tout cas même faire publier des articles s'ils le souhaitent.
Le GDR s'appelle OMER, groupe de recherche pour l'océan et la mer.
Très bien.
Mathieu ?
Parce que...
C'est
vrai que là, on a parlé donc, de ce qu'on en faisait, mais on faut quand même un peu insister sur la question de l'urgence.
Bien sûr.
Pour certains, on en a conscience, mais pour d'autres, pas encore. Donc, moi, j'applaudis des deux mains toutes les actions qui sont engagées par les surfeurs, qui sont engagées oui. Évidemment pour la question de ces dauphins qui s'échouent sur nos plages de manière on laisse faire ça en France, c'est tout à fait inadmissible. Donc c'est vrai que là il y a vraiment urgence à réagir et à prendre en main notre destin.
Je crois qu'on a vu des baleines cet été à Paris, dans la Seine. Enfin, il y a le côté atypique, c'est incroyable, c'est rigolo, etc. Mais en fait, derrière, c'est...
C'est alarmant,
c'est
triste.
Sûrement très alarmant et très triste, quoi. L'animal, oui. Il n'a rien à faire. Il ne vient pas ici par hasard. Enfin, c'est lié à l'état de l'océan, ce genre de choses.
Bien sûr, parce que le comportement donc, de ces grands animaux marins est complètement déboussolé.
Et on entend parler d'un continent de plastique. Alors, je ne sais pas, quand on fait de la voile, est-ce qu'on voit flotter des choses en plastique sur l'océan ?
Alors oui, on voit flotter du plastique. Donc ça, c'est assez désagréable. Mais ce que l'on voit moins, mais qui est très présent, ce sont des microplastiques. Et en fait, qui sont partout dans l'océan. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on ne peut pratiquement plus manger de poisson qui n'a pas ingéré donc du plastique. Donc ça devient vraiment catastrophique. Auparavant, le plastique était uniquement dans les arêtes des poissons. Donc a priori, on ne mangeait pas donc les arêtes des poissons. Mais maintenant, en fait, ces microplastiques sont dans la chair des poissons, que ce soit donc en Europe ou que ce soit en Asie ou que ce soit aux États-Unis.
Bon. Alors, je vais clôturer cette émission avec une petite info ludique.
Il nous reste une petite minute.
La petite minute ludique d'Élodie.
Voilà.
Alors, Marie-Laure, connais-tu l'ancêtre de la baleine ?
Ah non, tu me poses une colle là, Élodie.
Eh bien, l'ancêtre de la baleine s'appelle l'artiodactyle. C'est un mammifère quadrupède. Et oui, l'ancêtre de la baleine ressemblait à un petit daim. Vous le saviez, ça ? Un petit daim, l'ancêtre de la baleine, était un mammifère quadrupède.
D'accord.
Qui marchait.
C'est complètement dingue.
Voilà.
20 secondes pour se dire au revoir. Merci beaucoup, Marie-Laure.
Merci Mathieu, merci Élodie.
Merci Marie-Laure, merci beaucoup. Eh bien mes chers auditeurs, on se retrouve très bientôt. On se réécoute, on écoute l'émission dimanche matin, je crois.
Samedi matin. Pardon. Et sur notre site internet radio-calade.fr.
Voilà.
Tout est dit. À très bientôt, bonne soirée.
À très bientôt, bonne soirée.
La Cavale Calade.